Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour vous détendre sans pour autant mettre vos cerveaux en veille, piquer votre curiosité tout en chatouillant vos zygomatiques. Voilà la mission de nos journalistes, des journalistes qui ne se disent plus bonjour dans les couloirs. Ils se dévisagent, se jaugent et pour cause, ils sont désormais en compétition les uns les autres. Un seul sera élu à l'issue de cette émission, chroniqueur du jour. Forcément, entre les concurrents, comme aujourd'hui Jean-Philippe Ballas et Nicolas Carreau, la tension monte et les menaces fusent.
Si tu me doublais un jour, je te désosserai comme un gigot. Non, je rigole pas, je te débiterai comme un jambon.
Voilà qui n'est pas très confraternel, Jean-Philippe Ballas. À mes côtés, pour séparer les belligérants, ma casque bleue, Eva Roque. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et bien sûr, pour trancher en fin d'émission, notre invité arbitre aujourd'hui, c'est l'écrivain, réalisateur, dramaturge Éric-Emmanuel Schmitt qui nous accompagne jusqu'à 18h. Bonjour Éric-Emmanuel.
Bonjour.
Vous jouez actuellement Madame Pilinska et Le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à Paris. Et vous publiez Journal d'un amour perdu chez Albin Michel. C'est votre 22e livre, j'ai fait le compte, hein. Votre 22e livre, sans compter les nouvelles, et votre 24e pièce. Et vous avez le culot de dire qu'un de vos traits de caractère est la paresse. Ma première question est simple, Éric-Emmanuel. Dans quelle mesure vous vous foutez de notre gueule? D'accord, pour votre travail, oui.
Mais il y a des gauchers contrariés, il y a des paresseux contrariés.
Ah, vous êtes très très contrariés, voilà, comme paresseux. Pense. On va parler de cette pièce et de ce livre, un récit très personnel, on va le découvrir. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les journalistes en compétition aujourd'hui. À ma gauche, il a opéré mardi face à Renaud Capuçon une formidable remontada. Est-ce par la qualité intrinsèque de son papier ou parce que les parents de Renaud Capuçon, notre invité, lui ont inculqué le principe de la charité chrétienne?
J'ai été très ému par l'histoire de Jean-Philippe Ballas sur les bancs et puis aussi parce qu'on m'a fait comprendre qu'il était quand même un peu la traîne.
Oui, c'est surtout pour ça, Jean-Philippe. De quoi vous nous parlez aujourd'hui maintenant que vous êtes relancé?
L'histoire jugera. Je veux parler d'un GPS défaillant, ça nous concerne tous.
Ah ben ça nous arrive souvent.
Ouais.
À vos côtés, le seul journaliste de la rédac pouvant avoir un levier intéressant vis-à-vis de notre invité Éric-Emmanuel Schmitt, sachant qu'il est critique littéraire. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec 6 points, vous n'êtes plus très loin du podium. Avec quel sujet comptez-vous vous y propulser aujourd'hui?
Je vais vous parler d'une pièce de théâtre mythique. Ça s'appelle La Souricière. Non, mais d'une romancière, Agatha Christie. C'est pour ça que j'ai choisi cette pièce.
Ah. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Vous pouvez l'applaudir dans Madame Pilinska et le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à Paris en ce moment, car oui, il trouvait que normalien, agrégé de philo, romancier, réalisateur, dramaturge, c'était un peu léger comme CV. Du coup, il s'est dit, je vais devenir acteur, ça fera une ligne de plus. Éric-Emmanuel Schmitt, je vous somme de nous révéler le poteau rose sur Europe 1. Vous êtes en fait des jumeaux, des triplés, pendant qu'il y en a un qui joue au théâtre, l'autre écrit le roman suivant. C'est pas possible.
J'aimerais bien.
Comment on s'organise pour faire tout ça?
Ma vie est totalement schizoïde, c'est-à-dire je passe d'une activité à une autre, mais je perds pas de temps à enchaîner. Parce que quand je joue, j'arrive pas à écrire. L'énergie que demande le jeu.
Là, en ce moment même, par exemple, vous n'écrivez pas.
Ouais, j'arrive à corriger, mais j'arrive pas à écrire parce que c'est à partir de 15 heures, je rentre dans un entonnoir. Je peux même pas m'accrocher aux parois. Je descends jusqu'à 20h30. Il faut que toute mon énergie ressort à 20h30 jusqu'à 22h30. Ça consomme une énergie. C'est le contraire de l'énergie de l'écriture qui demande le retrait. Le retrait du monde pour le réinventer et puis le transformer en mots. Là, c'est se soumettre totalement aux autres. C'est brûler comme ça sur la scène. C'est savoir qu'à 20h30, on dira ça, qu'à 20h40, on va pleurer, qu'à 20h50, on va rire. C'est deux rapports au temps extrêmement différents et deux rapports à l'énergie extrêmement différents. J'aimerais bien qu'on soit deux. J'ai toujours reproché à ma mère d'avoir été quand même très, très imprudente.
Il faut préciser que vous êtes pendant 1h30 seul sur scène, enfin presque seul, puisque vous avez un pianiste qui vous accompagne. Mais donc, c'est 1h30 de texte que vous avez écrit, que vous jouez et vous interprétez tous les personnages de la pièce. C'est impressionnant,
c'est
franchement.
Parmi vos multiples passions, il y a donc la musique classique d'abord. Vous avez déjà écrit sur Beethoven, sur Mozart. Cette fois, c'est Chopin. S'il n'en restait qu'un pour vous, ça serait Chopin. C'est vraiment le compositeur qui vous parle le plus.
Ça se disputerait avec Mozart quand même. Mais
entre vous et Chopin, c'est quand même une longue histoire.
C'est une longue histoire. C'est un éblouissement à l'âge de 9 ans. Parce que dans la maison, il y avait un meuble que je détestais et que je contournais soigneusement, qui était le piano. Parce que ma sœur, qui est de 5 ans, mon aînée, torturait cet instrument. Mes parents, je ne sais pas pourquoi, avaient décidé qu'elle ferait du piano et moi pas. Bon, C'était l'inverse qu'il aurait fallu choisir. Et donc, j'étais le petit garçon, je détestais ça, je trouvais ça horrible. Et puis un jour, une tante est arrivée à la maison, parce que cette histoire est vraie. Ma tante aimée, c'est tellement beau de s'appeler aimée et d'être une tante aimée. Et elle s'est mise à jouer de ce piano. Et tout d'un coup, des sons absolument enchanteurs sont sortis, à nocturne, comme ce qu'on vient d'entendre. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, je veux faire du piano. Et j'ai commencé l'apprentissage du piano pour Chopin. Et je n'y suis jamais arrivé.
Et vous y êtes arrivé plus tard avec la fameuse Madame Pilinska, qui est l'héroïne de la pièce, un personnage assez excentrique. D'ailleurs, dans quelle partie il est romancé ? Dans quelle mesure il est romancé, ce personnage ? Elle était vraiment proche de ça dans la vie ?
Il est totalement romancé.
Ah, il est totalement romancé. Elle était beaucoup moins rigolote. Il est actuellement sur scène au Théâtre Rive Gauche à Paris avec Nicolas Stavy dans Madame Pilinska et Le Secret de Chopin. Éric-Emmanuel Schmitt est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures d'une compétition épique entre les plus valeureux chroniqueurs d'Europe 1. Vous voyez Game of Thrones ? Bah pareil, en plus trash. Qui montera, non pas sur le trône de fer, mais sur mes genoux, pour que je le couronne ?
Enfin !
Eh oui, pour que je le couronne, chroniqueur du jour, vous votez via Twitter. À suivre justement l'entrée en lice de la coqueluche de Télérama, Nicolas Carreau, chroniqueur littéraire d'Europe 1, qui s'est façonné au fil des années un personnage de dandy intello, capable de citer de mémoire n'importe quel extrait de Proust, et qu'on imaginerait mal à 3h du mat' dans un karaoké de Belleville, beurré comme un filu, chanter la Reine des Neiges.
Libéré !
Et pourtant,
délivré.
J'ai des archives à ma disposition. Nicolas Carreau arrive avec l'histoire d'une pièce de théâtre pas comme les autres, elle est jouée depuis 1952. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Jean-Philippe Ballas, Nicolas Carreau. 2 heures durant lesquelles les journalistes de la rédac ne reculent devant aucun coup bas pour shipper à leurs collègues le titre de chroniqueur du jour. Des cas de croche-patte seraient même remontés au DRH.
Oh,
ah,
il m'a niqué le pied, il m'a niqué le...
Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable.
Témoin impuissant de cette déliquescence de la rédaction d'Europe 1, Éric-Emmanuel Schmitt, actuellement à l'affiche de sa propre pièce, Madame Pilinska et Le Secret de Chopin au Théâtre Rive Gauche. Éric-Emmanuel, parmi toutes vos pièces, laquelle s'est jouée le plus longtemps ?
Bah, en France, vous voulez dire ?
Ah bah partout dans le monde, vous êtes worldwide, comme on dit. Hein.
Non, parce qu'à l'étranger, il y a des pièces qui ont duré plus de 10 ans.
Ah oui, quand même, oui. Ouais. Ah, oui, c'est des belles durées. Je vais vous présenter quelqu'un qui va peut-être vous énerver, c'est l'intello de la bande. Et ça, c'est la musique pour planter le décor quand on présente un intello à Europe 1. Je précise qu'il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, de la BO d'un porno ukrainien des années 70, mais du générique de Ce soir ou jamais, la célèbre émission de Frédéric Taddeï. Voici Nicolas Carreau, notre expert livre. Et Nicolas, vous nous parlez d'une pièce qui a eu encore plus de succès que celle d'Éric-Emmanuel Schmitt. Ce qui est couillu, sachant que c'est quand même notre invité aujourd'hui avec son vote contrat triple.
Mais, oui, puisque Éric-Emmanuel est romancier et dramaturge, et donc j'essaye de faire au mieux. L'auteur, c'est Agatha Christie. La pièce, c'est La Souricière, et c'est une pièce mythique, écrite en 1947. Elle a été jouée pour la première fois en 1952 à Londres, au Théâtre Saint-Martin. Depuis, les représentations n'ont jamais cessé. Elle détient le record avec près de 30 000 représentations. Oh. Donc c'est une enquête, puisque c'est du pur Agatha Christie, c'est un cluedo avec des invités dans un manoir, l'un meurt et un autre est coupable, on appelle ça un whodunit. Qui a fait ça, comme les Sherlock Holmes par exemple, c'est un genre à part le whodunit. J'aime beaucoup cette expression, c'est l'enquête policière
c'est
de base,
et vous le dites bien.
À l'ancienne, whodunit. Mais hyper bien ficelé, le problème avec ce genre d'histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas que la fin s'ébruite.
Bah oui, donc
sinon,
comment elle peut tourner
la pièce et bah, c'est pour ça que d'abord, pendant
Titanic
très
marché,
longtemps, la pièce était jouée uniquement dans ce théâtre londonien, à l'exception de rares exportations à l'étranger de temps en temps, une fois par an. Ça s'ouvre un peu maintenant, puisque la pièce va être donnée en français à Paris à partir du 10 septembre à la Pépinière, mais surtout, pour préserver le mystère, la dernière réplique de la pièce demande clairement aux spectateurs d'être complices et d'accord. De ne jamais révéler le secret.
Mais ce que vous nous dites, c'est que cette pièce n'a jamais été jouée en France ?
Si, ça c'est arrivé très rarement.
D'accord.
Voilà. Alors, on se dit que ça va finir de toute façon par s'ébruiter. Et bien, pas tant que ça, puisque les spectateurs, par respect peut-être, n'ont jamais été assez nombreux pour vendre la mèche et spoiler le spectacle. Jusqu'en 2010, en tout cas.
Et les réseaux sociaux.
C'est le drame. Pire, c'est la page Wikipédia anglophone. Dans son article sur la pièce qui révèle quasiment l'identité du meurtrier. En tout cas, elle donne assez d'éléments pour le trouver sans problème. Énorme polémique. Et la réponse de Wikipédia, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la page. En tout cas, sur le Wikipédia français, la consigne est respectée. Au passage, c'est le petit-fils, Matthew Pritchard, le petit-fils d'Agatha Christie, qui détient les droits puisque sa grand-mère les lui a donné comme cadeau d'anniversaire pour ses 9 ans, ce qui a fait lui un millionnaire.
Oui, c'est sûr que c'est assez pratique. Vous l'avez vu cette pièce ?
Oui, The Mousetrap.
Ah oui, The Mousetrap, ouais. Évidemment. Ouais. On ne l'a fait pas, Éric Emmanuel.
Et quel est l'assassin ?
Ah, tout de suite.
Je ne le dirai pas.
En exclusivité.
Une amie me parlait d'un livre d'Agatha Christie, elle me disait... que je commençais, je ne vous dis pas le titre parce que je ne veux pas vous refaire le coup, et je lui dis tiens, je suis en train de lire celui-ci. Elle me dit ah oui, c'est celui dont le narrateur est l'assassin.
Oh c'est affreux. Merci Nicolas Caro. Avec ce message à peine voilé à notre invité qu'il lui faudra patienter encore un peu pour entrer dans la catégorie des Marie Ginslark, prendrez-vous la tête du championnat européen? C'est pas sûr. Vous pouvez l'applaudir actuellement sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris dans Madame Pilinska et le secret de Chopin. Par rancunier, Éric-Emmanuel Schmitt reste avec nous.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue. Deux heures d'un sanglant pugilat entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, duquel seul votre culture G ressortira grandi. À suivre, un nouveau concurrent courageux ou inconscient, car il en faut du courage ou de l'inconscience pour tenter de bluffer Éric-Emmanuel Schmitt, conteur exceptionnel, en lui racontant une histoire. Histoire de GPS en l'occurrence, vous verrez que parfois il vaut mieux ne pas écouter la petite voix qui vous dit « faites demi-tour dès que possible ». Content de votre papier Jean-Philippe ?
Ça s'appelle le talent, je crois.
Bon, on verra comment Éric-Emmanuel appelle ça. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Jean-Philippe Ballas, Nicolas Caro. Deux heures pour étancher votre insatiable soif de savoir tout en décontractant vos précieux zygomatiques. L'équivalent musical serait d'écouter Wagner au ukulélé. En moins moche, cette semaine.
Oui.
Chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 se déchirent pour vous offrir l'info la plus étonnante, l'histoire la plus insolite, celle que vous aurez hâte de raconter ce soir au dîner. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil implacable de notre invité arbitre. Aujourd'hui, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui nous accompagne pour sa pièce « Madame Pilinska et le secret de Chopin », actuellement au théâtre Rive Gauche à Paris. Un mot, Éric-Emmanuel, de Nicolas Stavy qui joue à vos côtés. C'est un pianiste qui, comme on dit, a un bon petit niveau.
Ouais. On peut le dire. C'est un grand pianiste que ouais. J'aime beaucoup. Moi, je l'ai rencontré parce que j'avais eu une carte blanche à l'Opéra Bastille. On avait fait un spectacle ensemble déjà. Et on ne s'est pas quitté depuis. Parce que quand il joue, il raconte. C'est pas quelqu'un qui joue joli, qui joue parfait. Enfin, il joue parfaitement. Mais il est au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est un conteur. Et donc, tout devient palpitant, tout devient excitant. Et en plus, il a un rapport très fort à Chopin. Il a eu un prix Chopin à Varsovie.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Il a même un autre rapport à Chopin. Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est Stavisky. Et ses grands-parents avaient fui la Pologne dans les années 30. Et son grand-père avait coupé son nom pour s'adapter, fuir les persécutions. Donc, voilà, il y a une histoire très, très complète à l'intérieur de tout ça.
Et est-ce que vous-même, vous avez atteint un excellent niveau en piano ?
Non.
Bon, il joue les modestes. Si. Non.
Vous avez vu dans la pièce, quand il faut jouer mal, c'est moi.
Oui, mais vous le faites exprès.
Parce que lui Nicolas Stavy, il joue mal. Tandis que moi, je joue bien mal.
Dans un instant, Jean-Philippe Ballas, qui n'a peur de rien, jouera les compteurs face à Éric-Emmanuel Schmitt. Et vous verrez qu'il ne faut pas toujours suivre les conseils de votre GPS.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Eva Rock, Jean-Philippe Ballas, Nicolas Caro sont à mes côtés, trépignant d'excitation comme des coqs thaïlandais avant le combat. Entre les journalistes d'Europe 1 désormais en compétition pour le titre de chroniqueur du jour, les pics les plus acides fusent. Tout est bon pour déstabiliser l'adversaire.
Oh là là, on dirait Eddie Mitchell.
Non, on n'avait pas le physique. Pas le physique, Eva. Heureusement, pour compenser ce fiel, on reçoit aujourd'hui un gentleman, le délicieux Éric-Emmanuel Schmitt, actuellement à l'affiche de sa pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin. L'histoire vraie de votre passion pour Chopin. Et puis il y a aussi ce livre qui vient de paraître chez Albin Michel, Eva vous le montre sur europe1.fr.
Oui,
journal d'un amour perdu tout aussi personnel, puisque cet amour perdu, c'est celui de votre maman.
Oui. En fait, je tiens un journal de façon très, très épisodique, sporadique. Mais le jour où ma mère a disparu, ce journal a pris une grande place. Parce que je crois que j'ai un seul pouvoir dans la vie, c'est de donner la vie par les mots. Et donc je voulais lui redonner vie. Et donc mon journal a pris une place énorme. Et c'était le journal d'un chagrin, c'était le journal parfois du désespoir, c'était le journal de pensées.
Vous avez des idées noires, oui.
Oui, très très noires. Et puis au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin, que ça n'avait pas été si erratique que ça, et que ce chemin, c'est ce qu'on appelle celui du deuil, et que j'étais arrivé à respecter ce qu'elle avait toujours voulu, c'est-à-dire le devoir de bonheur. Parce que ma mère ne m'avait pas seulement fait le cadeau de la vie, mais le cadeau de la vie heureuse. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin, j'ai repris les notes de ce journal et j'en ai fait un livre parce que je voulais partager à la fois ce désarroi, le nommer et montrer qu'on arrive à retrouver l'amour de la vie.
Vous dites, ce n'est pas une mère qui me manque, c'est elle.
Oui, d'abord.
Au-delà du fait que c'était votre mère, c'est une personne formidable.
Oui, c'était une personne extraordinaire. Et j'ai mis plusieurs mois à manquer d'une mère. Je manquais d'abord d'elle. Puis après, qu'est-ce que c'est manquer d'une mère ? Enfin, c'est quand on n'est plus l'enfant de personne. Mmh. On est peut-être toujours un enfant, mais on n'est plus l'enfant de personne. Et puis c'est aussi le rapport au temps qui change. C'est-à-dire que avant, le temps qu'on a devant nous, c'est un horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance. On additionne les années, mais on va vers... Et puis tout d'un coup, vos parents meurent et l'horizon, c'est un mur. Parce qu'il y a l'âge où qu'elles sont morts vos parents et vous vous approchez de ce mur, vous allez vous cogner dessus. Et alors, au lieu d'additionner les années, vous faites des soustractions, vous mettez à compter à rebours. Alors tout change. Alors au début, c'est effrayant. Puis après, on arrive à habiter ça parce qu'on va dans cet effroi, on peut aussi puiser le goût et la saveur de vivre. Mais voilà, je raconte tout ça.
Vous dites, j'ai l'impression que ma vie, c'est son œuvre et ça me va très bien. C'est votre mère qui a fait de vous l'homme, peut-être l'artiste que vous êtes.
Oui, moi je dis ma vie, son œuvre. Oui, parce que j'ai fait qu'hérité. Vous savez, il y a des gens qui se construisent dans la rébellion, dans l'opposition, parce qu'ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir quelqu'un d'aussi magnifique en face d'eux. Moi, j'ai pas eu à me construire contre. Je me suis construit dans une filiation. Elle m'a initié aux arts. Elle était folle de musique, elle était folle de ballet. Elle dansait elle-même. Elle m'a emmené au théâtre, bien sûr. Elle adorait la littérature, elle adorait les voyages. Enfin, qu'est-ce que vous voulez?
Elle vous a ouvert toutes les portes.
Elle m'a ouvert toutes les portes. Une vraie vie, c'est une vie qui est faite d'émotions et d'émerveillements fondateurs. Et elle me les a offerts, ces émotions et ces événements sur lesquels on peut tisser une existence.
Et vous lui rendez hommage dans Journal d'un amour perdu, disponible chez Albin Michel. Vous êtes également sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris pour Madame Pilinska et Le Secret de Chopin. Le prolifique Éric-Emmanuel Schmitt passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Comment, en si peu de temps, une rédaction aussi soudée que celle d'Europe 1 a-t-elle pu se transformer en un tel foutoir ? Je plaide coupable. Avec l'équipe sauvage, j'ai instillé le poison de la compétition entre des journalistes qui désormais ne reculent devant aucune mesquinerie pour salir la réputation d'un collègue. Dernier exemple en date, cette affiche satirique punaisée par Nicolas Carreau dans Les Toilettes des Hommes, la photo d'un cerveau et cette légende à vendre, cerveau de Jean-Philippe Ballas et ces deux mots...
Jamais servi.
Qui sera élu chroniqueur du... C'est vraiment dégueulasse, Nicolas. Malgré les tentatives de déstabilisation, Jean-Philippe Ballas vendra chèrement sa peau avec une histoire dont la morale peut être résumée ainsi. En voiture, n'écoutez pas connement votre GPS. Réfléchissez. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h,
l'équipée sauvage.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue avec Eva Roch, Nicolas Carreau, Jean-Philippe Ballas et sous l'égide d'un géant de la littérature française devenu acteur, ce qui lui permet de jouer en ce moment sa propre pièce, Madame Pilinska et Le Secret de Chopin au Théâtre Rive Gauche à Paris. Éric-Emmanuel Schmitt, tout se passe bien pour l'instant ?
Ah oui,
ça va.
J'adore vos conflits de rédaction.
Oui, c'est pas mal, hein.
C'est Eva, spectaculaire.
Vous nous jouez un peu de Chopin ? Sublime. Oui, merci Eva. Oui, c'est
je
bon.
Je jure que
merci,
c'est pas moi.
Merci. Alors, si tout va bien, Éric-Emmanuel, c'est peut-être que vous n'avez pas encore entendu la chronique de Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe qui n'a d'évidence pas compris que je votais aussi pour le chroniqueur du jour et qui a donc oublié quelque chose de très important quand on bosse sous mes ordres, l'obséquiosité à mon égard. Ainsi, mardi, alors que je rencontrais un léger pépin, à savoir que j'avais écrit partout dans mes feuilles que Renaud Capuçon, notre invité, sortait un nouvel album le 12 octobre, et que je venais de réaliser à une minute de l'antenne que c'était bien le 12 octobre, mais 2018, soit il y a un an, j'aurais aimé pouvoir compter sur Jean-Phi, penses-tu ? Ok, il faut que je réécrive tout. Donc attends, donc ça ne va pas. Donc, attends, on a un gros problème là. Il va falloir que j'improvise, je suis très très mauvais en improvisation.
C'est vrai.
C'est moi qui note aussi, hein, n'oublie pas. Vous allez vite apprendre, Ballas, que le respect de la hiérarchie est la clé de la victoire dans cette émission.
Ça me dégoûte ce genre de comportement.
Allez-y. Allez-y quand même, Jean-Philippe. Je suis pas très bon en impro, donc je vous lance comme ça au dévoté. Hein.
Bon, moi j'adore cette histoire. Je trouve qu'elle dit beaucoup de choses de notre nouveau monde. Je vous emmène aux États-Unis, à Denver, Colorado, sur la route de l'aéroport et... Pardonnez mon ton un peu familier, mais c'est le boxon. Un embouteillage monstre à cause d'un accident. Bref, on n'avance plus.
Déjà, on salue la qualité des effets sonores. Ouais. On se croirait vraiment à Denver, Colorado.
C'est du Spielberg. Ces petits moments de vie, on rêverait de trouver la sortie miracle, la petite bifurcation, un truc pour s'évader du chaos.
À 150 mètres, tournez à droite.
Et là, je dis youpi, parce qu'elle existe justement, cette sortie miracle. Un itinéraire bis proposé par le GPS et soudain, des dizaines et des dizaines de voitures prennent la tangente. Sauf qu'elle est bizarre quand même, cette route. Enfin, je dis cette route, c'est plutôt un chemin de terre étroit. En plus, il a beaucoup plu.
Ça m'arrive tout le temps.
Il y a de la boue partout. Mais bon, vu que la voiture juste devant continue d'avancer, on peut quand même pas tous se tromper. C'est là qu'il faut aller. Et c'est ainsi qu'une interminable colonne de voitures se forme au milieu de nulle part. Parce que non, fallait pas y aller. Le GPS dont je tairai le nom, le GPS, s'est planté.
Faites demi-tour dès que possible.
J'aimerais bien faire demi-tour dès que possible. On peut pas. Certains automobiles sont même embouchés. embourbés, ils doivent laisser la voiture sur place. Après l'embouteillage des villes, on a donc l'embouteillage des champs et l'image est passée en boucle sur toutes les chaînes de télévision américaines. Ce que j'aime, c'est la défense des concepteurs du GPS qui vous disent qu'il faut faire preuve de discernement. On ne peut pas toujours suivre bêtement son GPS. Bon, en même temps, ça sert quand même à ça, un GPS. Et je vous avoue que depuis cette histoire, je regarde le mien avec une certaine méfiance et j'ai laissé une carte dans la boîte à gants. Vous savez, ces cartes hyper compliquées à replier. Mais on ne sait jamais.
Mais oui, une bonne vieille carte. Moi, je l'ai aussi dans ma boîte à gants parce que mon GPS me fait tout le temps ça. Moi, ça m'arrive tous les jours, ce qui est arrivé à Denver, Colorado. Je me
retrouve
dans
centaines de voitures.
La voiture ne passe plus. Un coup d'œil régie pour voir si on a le temps. Oui, malheureusement, on a le temps pour la question vache de l'autre chroniqueur. Oh là, vous me faites peur, Nicolas. Vous avez le regard des mauvais jours.
Non, en plus, question vache, pas du tout. C'est une question basique. Au contraire, on aurait dû commencer par là. Mais Jean-Philippe, vous demandez, qu'est-ce que ça veut dire au fond GPS ?
Je trouve qu'il ressemble à Nicolas Bedos, un peu Nicolas Caro, non ?
Changez pas de sujet.
Faites ça.
Bonne question.
Global Positioning System.
Ah, là, on est obligé de vous enlever un point, Jean-Philippe. Même moi, je vais laisser la réponse. Vraiment, Dieu sait que je suis pas très fort en anglais. Bravo quand même, Jean-Philippe Ballas. Votre histoire de GPS fou aura-t-elle amusé notre invité au point qu'il vous offre son vote ? Nous verrons ça tout à l'heure. Il publie Journal d'un amour perdu chez Albin Michel. Il est également sur la scène du théâtre Rive Gauche dans Madame Pilinska et Le Secret de Chopin. Éric-Emmanuel Schmitt est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue 2 heures sur ce filin étroit qui sépare le journalisme le plus rigoureux du divertissement le plus potache. Vous commencez à connaître le concept. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 défilent au micro d'Europe 1 pour vous proposer l'histoire la plus folle, l'info la plus surprenante. Un seul décrochera le titre suprême de chroniqueur du jour. À suivre, Normal Sup, la grecque de philo. Dans sa vie, Éric-Emmanuel Schmitt a relevé bien des défis. Mais celui qui se profile semble insurmontable. Battre Eva Rock dans un quiz. Oh, je vous en prie, Emmanuel. Sur un malentendu, elle peut gagner.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures d'une palpitante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 en présence d'un invité d'honneur aujourd'hui. C'est le demi-dieu de l'édition française qui nous accompagne. Il a vendu près de 22 millions de livres de par le monde. Il fait donc partie de ces rares personnes qui, en passant devant les affiches des cagnottes Euromillions, se dit « Ouais, bof. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment vivre avec ça aujourd'hui ?» Éric-Emmanuel Schmitt est à l'affiche de sa pièce « Madame Pilinska et le secret de Chopin » au théâtre Rive-Gauche à Paris. Il publie également « Journal d'un amour perdu » chez Albin Michel. Alors c'est vrai que les chiffres sont affolants. Vous êtes joué, Éric-Emmanuel, dans pas moins de 50 pays. Vous êtes traduit en 46 langues, même si personnellement j'ai trouvé tout de même en Chine que Oscar et la Dame Rose perdaient un peu à la traduction. C'est vrai, mais c'est vrai que quand même, c'est un succès fou. Comment on garde la tête froide et surtout, comment on peut réussir à se remettre en cause quand le succès est là tout le temps, à tous les coups ? Est-ce qu'il vous arrive d'écrire un début de roman et de vous dire non, ça fonctionne pas en fait ?
Ah, mais tout le temps ?
Ah, tout le temps. Vous êtes Éric-Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire que moi je serai Éric-Emmanuel Schmitt, j'écris puis je donne à mon éditeur. Je vends.
Je suis peut-être la seule personne pas convaincue d'être Éric-Emmanuel Schmitt.
C'est ça votre force.
Parce que moi je vis au présent. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire. Je suis quasi amnésique, quoi, en fait. Et c'est le présent qui me passionne. Mais c'est vrai que vous me faites rire parce qu'à un moment, une fois, mon éditeur m'a dit je disais, j'hésite entre écrire tel livre.
Écrivez
parce qu'en
tous.
Fait, moi j'ai un jardin où il y a des livres comme ça et je vais prendre les fruits, quoi. Et il croyait que j'avais un problème d'écriture alors que c'était juste un problème de surplus d'écriture. Et il m'a dit, mais si vous voulez, vous savez, votre nom c'est une marque et alors on peut vous trouver quelqu'un à qui vous donnerait
non.
On va proposer un nègre.
Mais non.
Oui. Et alors j'étais entre la fierté et la colère absolue parce que la fierté du genre, bon, finalement je dois représenter quelque chose, ce dont je m'étais pas rendu compte. Et en même temps la colère en disant, bon, enfin, personne n'écrit ne peut écrire du Schmitt comme Schmitt. Voilà, donc voilà. Non, moi je vis au présent.
Alors, évidemment, Éric-Emmanuel Schmitt, on est en France, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous vivez en Belgique. Et en France, le succès, on trouve ça toujours un peu suspect. Vous avez cette formule assez drôle, vous dites « Je comprends qu'être dans les listes de best-sellers peut créer une méfiance systématique de la critique, mais comme tout ce qui est systématique, c'est sot, je l'ai vécu, à 4000 exemplaires, j'étais un génie, à 40 000, j'avais du talent, et à 400 000, j'étais une merde. » Je trouve que c'est formidablement résumé, ce problème du succès en France.
Mais oui, bien sûr, parce qu'au bout d'un temps, les gens ne lisent plus... certains critiques ou certains journalistes prennent le livre en disant « Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci pour avoir du succès ?» Alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui crée. Et puis oui, ça crée des malentendus. Enfin, ça va, c'est des problèmes de réussite, hein, c'est pas des problèmes d'échec,
donc
on peut endurer ce genre de choses.
Nicolas Caro.
Tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on n'a pas aussi, à l'inverse, tendance à évaluer maintenant le talent par le nombre de ventes ? C'est-à-dire que dès que quelqu'un a beaucoup de ventes, on dit « bah voyez, il est apprécié, c'est qu'il a du talent », alors que pas forcément.
Il y a les deux. Les deux sont aussi bêtes, quoi. Attribuer le génie à la non-reconnaissance et puis faire l'inverse. Ouais. Non, mais tout ce qui est systématique, c'est ce que je disais dans l'article du Monde, tout ce qui est systématique est sot, quoi.
Sur le tournage de Monsieur Ibrahim, Omar Sharif avait cette formule, il vous disait « si tu n'es pas critiqué, tu n'es pas connu ».
Oui.
Moi, ça résume tout. Ah ouais. Elle tirait une grande fierté de n'être jamais critiquée jusqu'à ce qu'elle médite la phrase d'Omar Sharif. Éric Emmanuel, je vous présente Eva Rock, ancienne rédactrice en chef de la télé 7 jours. Autant vous dire qu'intellectuellement, il va falloir vous accrocher pour la battre dans notre célèbre quiz. Qui veut gagner une yaourtière Philippe Vandel? Et oui, c'est un beau cadeau.
Je l'offre à Éric Emmanuel Schmitt tout de suite.
9h11 sur Europe 1, tous les matins. Nous allons mesurer vos connaissances littéraires réciproques. C'est drôle. Avec une épreuve aussi simple que redoutable, je vais vous donner des titres de livres. Vous me dites s'ils existent ou s'ils sont complètement inventés. Vous répondez chacun votre tour. C'est parti. Eva Rock, si je vous dis le mec de la tombe d'à côté.
Ah bah oui, vrai, je l'ai lu en plus.
Oh! Alors vous me ferez des quiz plus difficiles pour Eva Rock, qui finalement lit des bouquins en fait. Il est signé Katharina Mazzetti, suédoise, le livre est sorti en 2006. Bien joué Eva. Éric Emmanuel Schmitt, si je vous dis « Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie ». Vrai ou faux livre?
Vrai livre.
Vrai livre.
Nick Flynn,
un poète américain, sorti chez Gallimard en 2002. Vous l'avez lu?
Non.
Vous n'avez pas vraiment envie visiblement. Eva Rock, comment utiliser les autres 90% de votre cerveau pour augmenter la taille de vos seins?
Non, c'est faux, et arrêtez de me poser des questions comme ça.
Vrai livre.
Non.
Eh oui, sorti en 1979, écrit par Donald Wilson. Le titre entier, c'est « L'augmentation mammaire grâce à la totale puissance de votre esprit. Comment utiliser les autres 90% de votre cerveau pour augmenter la taille de vos seins ?»
Je ne comprends pas pourquoi vous avez posé cette question à moi et pas à Éric Emmanuel.
Je vous l'ai commandé, Eva.
D'accord.
On ne sait jamais. Éric Emmanuel, le froid modifie la trajectoire des poissons. Vrai livre ou faux livre?
C'est un bon titre. Non.
Non, vrai livre.
Ah oui, c'est
vrai. Auteur canadien Pierre Zalowski a sorti ce livre en 2007. Dans ce livre, on trouve cette citation. Écoutez bien, Eva. L'amour, c'est comme un taxi. S'il ne s'arrête pas et qu'on lui court après, c'est qu'il est déjà pris. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je suis content de ne pas l'avoir.
Eva Rock, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, mais ça, c'est trop facile, ça. Oui. Tout le monde l'a lu. Oliver Sacks, ouais. Neurologue anglais. Dans ce livre, il raconte les affections les plus bizarres qu'il a rencontrées chez ses patients. Il raconte notamment le cas de cet étudiant de médecine de 22 ans qui, après une nuit d'abus de cocaïne, son odorat s'est amplifié de façon dramatique. Plusieurs années après la sortie du livre, l'auteur a avoué qu'il parlait de lui, tout simplement. Éric Emmanuel Schmitt, si je vous dis Siloc, Superloc, Soliloc et Interloc de pataphysique. Vrai ou faux livre?
Si c'est un pataphysicien, il est capable d'avoir écrit un livre comme ça. C'est horrible parce que quand on ne connaît pas, on a tendance à dire que ça n'existe pas, ce qui est une preuve de connerie totale.
Et donc vous répondez?
Ça n'existe pas.
Non, ça existe! Il est signé Alfred Jarry, sorti en 1906. Ce livre se veut un manuel de pataphysique.
Ah là, j'ai honte.
À savoir la science des exceptions.
Ah oui, moi je ne pensais pas que le
théâtre. Ça en plus, le théâtre.
Et Baroque, enfin, Oui, Oui et Monsieur Grosminou. Vrai livre ou faux livre?
Ah ben non, ça doit être faux ça, parce que Grosminou.
Eh bien non, toutes les réponses étaient vraies.
Ah bon?
96 pages sorties en 2000, auteur Enid Blyton, romancière britannique à qui on doit oui, mais aussi le Club des 5 et le Clan des 7.
Qu'est-ce que j'ai détesté cet auteur.
On l'embrasse. C'est Eva qui remporte la yaourtière, Philippe Vandel.
Je suis tellement contente.
Et ça, je pense que ça va changer votre vie.
Ça va changer ma vie.
Compact, chromé, la yaourtière Philippe Vandel est à vous. Il nous fait l'insigne honneur de nous accompagner jusqu'à 18h et de noter les journalistes d'Europe 1. Vous pouvez l'applaudir sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris dans Madame Pilinska et le secret de Chopin, où vous pouvez acheter son livre, Journal d'un amour perdu, ou les deux, mais juste pas en même temps. Éric Emmanuel Schmitt passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Eva Rock, Nicolas Carreau, Jean-Philippe Ballas sont à mes côtés. L'équipe sauvage se poursuit. 2 heures d'une ébouriffante compétition mettant aux prises des collègues, des amis pour certains. Chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 se succèdent au micro. Un seul sera couronné chroniqueur du jour, sous l'œil attentif de notre invité Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel, comment vous avez trouvé Jean-Philippe Ballas tout à l'heure?
Les charlatans, c'est fascinant parce que les charlatans, c'est du théâtre. C'est souvent des très très bons comédiens.
Il vous a complètement grillé, tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire grâce à une folle compétition mettant aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se succèdent au micro pour vous proposer l'histoire ou l'info que vous aurez hâte de raconter à vos proches au dîner. Une émission à la modernité absolument décoiffante. porté par un animateur résolument tendance qui sait vivre avec son temps et qui n'a pas son pareil pour chauffer un studio en utilisant des formules novatrices. Bon, allez, hop, on y va. Vous êtes chaud ?
Et c'est parti !
Nous sommes le 6 septembre 1993. J'espère que vous êtes chaud ! Éric Emmanuel Schmitt, notre invité, l'est indéniablement. Tout va bien, Éric Emmanuel ?
Chaud comme une baraque à frites.
Oh ! Ouh, les petits loups ! Ensemble, on continue de parler de Madame Pilinska et le secret de Chopin que vous jouez actuellement au Théâtre Rive Gauche à Paris et de ce livre très autobiographique, Journal d'un amour perdu chez Albin Michel. Je vous présente juste nos deux nouveaux concurrents. Là, on monte en gamme, clairement, je vous offre des chefs de service. Deux journalistes aguerris qui n'ont pas du tout décidé de jouer la carte du racoleur pour vous séduire, puisqu'Emmanuel Dutheil, chef du service éco, vous nous parlez de...
Ricard.
Admirable. Quant à Eve Roger... Quant à Eve Roger, chef du service société, vous nous parlez de...
Trouplant, les couples à trois.
Oui, oui, le trouple à trois, oui, ça souvent c'est le cas. Le trouple, phénomène qu'étonnamment Eva Rock connaissait déjà, mais comment ?
Par Jackie et Michel.
Bien, oh, passons rapidement. Éric Emmanuel Schmitt, heureusement, il en faut beaucoup pour vous choquer. Le trouple, le polyamour, on va en parler, c'est quelque chose qui vous intrigue, qui peut potentiellement vous intéresser. C'est pas une proposition directe, hein, juste une réflexion comme ça, générale.
Ah non, moi, ce que je trouve anormal, c'est le couple.
Ah.
C'est-à-dire que je vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait aimer qu'une personne. Et je crois véritablement qu'en plus, c'est une façon de dépasser la jalousie qui peut être un allègement suprême.
Mais alors là,
il fait mon sujet avant que je commence.
Oui, mais en même temps, il adore votre sujet visiblement. Oui. C'est une bonne chose. Éric Emmanuel, c'est le problème des carrières trop remplies. On ne sait plus par où commencer. Alors je vous propose déjà de découvrir comment les gens vous voient. Ce n'est pas un micro-trottoir, ça serait indigne de notre créativité foisonnante. Non, c'est un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on ne s'est pas fatigué à faire un montage qui vous soit favorable. On a tout laissé.
Éric Emmanuel Schmitt.
Il a un visage assez rond, il a dégarni, cheveux blancs.
Jovial, assez fort, 60 ans.
Mon mari les a tous lus, il les lit tous. Ouais.
J'ai un ami qui a lu son livre où il parle de son expérience dans le désert et il m'en a parlé avec beaucoup d'émotion.
J'allais dire la cuisine. Je sais pas, la cuisine Schmitt. Je sais pas, je sais que c'est pas ça, mais ça m'a fait penser à ça.
Oscar et la dame Rose, c'est ça ?
Sympa, et puis qui a d'humour et tendre. C'est un homme tendre.
Non, il n'a pas d'humour, il n'est pas du tout tendre, et mais il fait de belles cuisines.
Schmitt, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde.
Ça, faut le reconnaître. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes actuellement sur scène pour une pièce que vous avez écrite, adaptée d'un de vos livres, Madame Pilinska et le secret de Chopin au Théâtre Rive Gauche. Et ce théâtre, c'est votre théâtre. C'est un vieux rêve de posséder son théâtre.
Je pense qu'il y avait un rêve d'enfant, mais il y a surtout une colère qui m'est arrivé un jour.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'avais été contacté par la fondation Anne Frank, qui s'occupe du journal d'Anne Frank, parce qu'ils voulaient qu'un écrivain fasse une version scénique du journal d'Anne Frank. Et ils ont consulté 10 écrivains dans plusieurs pays qui avaient une carrière internationale. Et finalement, ils m'ont choisi parce que je leur ai raconté comment je ferais ça. J'écris le texte pour le monde entier. Et quand je le propose à Paris, dans les théâtres parisiens, tout le monde le refuse. En disant, on a beaucoup parlé de ces choses-là, c'est triste, les gens ont envie de rigoler. Des choses qui me sont insupportables. J'ai été pris de colère et j'ai acheté le théâtre Rive Gauche. Je me suis endetté pour acheter le théâtre Rive Gauche. Voilà. Et je ne le regrette pas. On a joué le journal d'Anne Frank à l'ouverture. On a fait 220 représentations.
Ah oui, comme quoi.
Triomphales. Il faut faire confiance dans l'intelligence du public, y compris l'intelligence affective.
Que ce soit votre livre, Journal d'un amour perdu, ou votre pièce Madame Pilinska, il y a toujours, au-delà de l'histoire, une dimension philosophique. Dans le livre, par exemple, vous dites « On occupe sa jeunesse à se préparer à vivre, sa vieillesse à se souvenir d'avoir vécu. Ce faisant, on rate le présent qui seul existe en tombant dans deux pièges, celui de l'avenir qui n'existe pas, celui du passé qui n'existe plus. » Ça, c'est un condensé de votre philosophie, finalement.
Complètement. Je ne suis pas du tout un être nostalgique ou mélancolique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le journal d'un amour perdu, je raconte que mon chagrin à la disparition de ma mère me rend nostalgique et mélancolique, ce qui n'est pas ma nature. Parce que tout d'un coup, je me réfugie dans le passé, parce que dans le passé, elle y est. Et ce qui m'a rendu le présent, ça a été à la fois de l'expérience du théâtre, puisqu'on se soumet au présent, et puis de nouveau créer, et puis après réapprendre à vivre.
Mais vous dites qu'il y a deux assassins, la nostalgie et l'espoir.
Oui.
Ouais. J'ai trouvé cette formule magique.
Donc, Eva à Lunitch, visiblement, c'est
mais
bien.
Non, j'ai
c'est
lu bien, Éric Emmanuel Schmitt.
Alors, au lieu de regarder Éric Emmanuel Schmitt avec des yeux énamourés, rappelez-nous plutôt son actu.
Faites comme ça.
Moi, je le fais comme ça.
Je vous conseille vraiment la lecture du journal d'un amour perdu, c'est chez Albin Michel. Et puis, il faut vous voir sur scène. Il y a 30 représentations exceptionnelles donc, au théâtre Rive Gauche. C'est du mardi au samedi à 20h30 et en matinée le dimanche à 15h.
Bien joué, Eva.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue sur Europe 1 avec Eva Rock, Ève Roger, Emmanuel Duteil, des journalistes qui désormais ne rêvent plus, prix Albert Londres, prix Pulitzer. Ils visent le titre bien plus prestigieux de chroniqueur du jour. Un seul aura ce privilège, vous choisissez. Et avant d'entendre l'enquête d'Emmanuel Duteil sur la chute des ventes de Ricard, je tiens à l'alerter. Il y a des thèmes comme le Ricard ou le vin où il ne faut pas aller trop loin dans l'investigation. Hier par exemple, sur l'analyse scientifique du vin, Alain Sirou avait visiblement un peu trop enquêté.
Bonjour Mathieu.
Vous vous posez une question très concrète.
C'est la deuxième importance de deuxième événement important de la semaine, c'est les foires au vin. Donc évidemment, j'ai enquêté.
Essayez, Emmanuel, de garder la distance par rapport au sujet quand même. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Ève Roger, Emmanuel Duteil. Deux heures d'une compétition sans temps mort entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous le contrôle d'un invité arbitre éminemment prestigieux aujourd'hui. Sa rentrée est chargée entre une pièce au théâtre Rive Gauche, Madame Pilinska et le secret de Chopin, et un livre, Journal d'un amour perdu. Éric-Emmanuel Schmitt est notre invité jusqu'à 18h. Comment ça se passe quand on est Éric-Emmanuel Schmitt? On se lève un matin, on se dit... Tiens, cette idée-là, ce sera une pièce de théâtre, et ou non, plutôt un roman, ou non, une chanson, parce que vous êtes aussi musicien. Comment vous répartissez toutes vos idées?
Ah ben c'est l'histoire qui commande. C'est-à-dire que quand une histoire est une crise, je me dis que ça va être une pièce de théâtre. C'est-à-dire quelque chose, un nœud comme ça, qui n'a pas besoin de l'épaisseur du temps et de la durée. Par contre, je sens que dans une histoire, il faut que les mois passent, les jours passent ou les années passent, parce qu'il peut y avoir un processus de destruction, de cicatrisation, de reconstruction. À ce moment-là, je sais que c'est une écriture romanesque. Donc en fait, le théâtre, c'est l'absence de temps et le roman, c'est l'épaisseur des jours.
En vous écoutant, je me dis, est-ce que vous enseignez ?
J'ai enseigné, mais que 5 ans.
Vous m'avez l'air sacrément pédagogue. Je veux dire, c'est...
Oui, j'adorais ça. J'étais maître de conférence à l'Université de Savoie. C'était le seul métier que j'ai jamais exercé, parce que écrivain, ce n'est pas un métier, c'est un destin.
Alors, Éric-Emmanuel, vous aimez Chopin. Lui, c'est plutôt la Chopine. Voici le chef du service éco d'Europe 1. Restez, je crois que ça, je l'ai piqué à Pierre Vassilus, une chanson de Pierre Vassilus. Voici le chef du service éco d'Europe 1, Emmanuel Duteil. Cet après-midi, vous avez décidé de nous parler non pas des bons chiffres du Nasdaq, non pas de la réforme des retraites, ni des régimes spéciaux de la SNCF,
mais sympa les dîners avec moi,
du Ricard. Voilà, de Ricard. Racontez-nous.
Oui, les temps sont durs pour notre fameux Ricard. Les ventes ont reculé de 4% au premier semestre et la baisse est notamment très forte en France. Pourquoi ? Eh bien parce que les prix, vous en êtes peut-être rendu compte si vous faites vos courses, se sont littéralement envolés ces derniers mois, comme le dénonçait il y a quelques jours sur Europe 1, Alexandre Ricard. C'est le petit-fils du fondateur du groupe Ricard, il est aujourd'hui à la tête du groupe.
C'est un gros problème pour nous. Là, les augmentations sont juste énormes. Sur une bouteille de Ricard, on parle d'une augmentation de 9,5%, ce qui est vraiment énorme.
Alors, vous avez bien entendu, hein, 9,5% de hausse. Et à cause de cette progression, la bouteille de Ricard a passé la barre très symbolique des 20 euros. C'est plus d'un euro en plus, hein. Alors, comment ça s'explique ? Eh bien, parce que le Ricard fait partie des produits d'appel dans un supermarché. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Ricard, c'est le produit le plus vendu en France en grande distribution. Alors, je suis sûr
mais
que...
Non.
Mais si, alors, voilà, il y a un petit étonnement dans le studio. J'espère qu'il y a même à la maison ou en voiture. Vous dites, mais il raconte n'importe quoi, il a bu trop de Ricard.
Mais
comment ça peut être le produit le plus vendu? Comment on en vend plus que de l'eau? Je vous parle en valeur.
Et parce qu'il faut de l'eau en plus.
Bah voilà.
On ne peut pas boire sec le Ricard. Ou alors, on a vraiment de grands problèmes.
C'est quand même un petit peu cher. Si on additionne le prix de toutes les bouteilles vendues, c'est le plus gros chiffre d'affaires de la grande distribution. Mais voilà, maintenant, avec la loi alimentation qui est passée il y a quelques temps pour essayer de défendre le salaire des producteurs, c'en est fini des grosses promos sur ce genre de produits d'appel comme le Ricard. Du coup, les prix se sont envolés. Et donc, les ventes baissent. Ce que dénonce Ricard, hein, parce que là, très clairement, on ne peut quand même pas dire que la hausse des prix profite aux agriculteurs français.
Clairement. Oui. Mais Emmanuel, on est d'accord, le Ricard reste quand même une institution.
Bien sûr, hein, même si c'est une marque très française, vendue quand même beaucoup en France, c'est l'une des 20 marques les plus fortes au monde du côté des spiritueux. Le Ricard, vous le savez sûrement, mais a été créé en 1932 à Marseille par Paul Ricard, avec le fameux une dose de Ricard, 5 volumes d'eau. Paul Ricard lance le premier.
J'en connais qui
long
n'ont
drink.
Pas cette règle. C'est pas tout à fait
c'est comme ça qu'il faut
le boire. Cet été.
Mais il a lancé ce qu'on appelle le long drink à la française. C'est comme ça que l'on dit. La recette serait encore aujourd'hui secrètement gardée dans des espèces de coffres du côté de chez Ricard. Ricard, c'est évidemment le leader mondial des anisés. Une marque qui a toujours su se réinventer. Écoutez cette petite anecdote. La loi du 6 janvier 1951 interdit la publicité des apéritifs anisés par affichage ou voix de presse, ce qui a donné une idée à Paul Ricard. On peut pas faire de de pub, eh bien, on va fabriquer des objets, d'où le fameux broyau jaune en grec.
Et oui, la plupart et la casquette Ricard.
La casquette Ricard, grâce au Tour de France, mais on a également les verres, les carafes estampillées Ricard. Donc même si ça coûte de plus en plus cher, même si les ventes baissent, je peux vous dire qu'on n'est pas près de l'enterrer, notre Ricard.
Merci beaucoup,
je vous rassure,
Emmanuel Dutheil. Notre invité, Éric-Emmanuel Schmitt, avec nous pour son livre « Journal d'un amour perdu ». Aura-t-il été touché, ému par les déboires de la maison Ricard? Réponse juste avant 18h. L'équipe est sauvage se poursuit avec ma complice Eva Rock, dont l'humour et je dirais même l'esprit irradie cette émission. Un humour qui fait toujours mouche, sauf évidemment quand je ne l'entends pas. Et vous savez que notre employeur ici nous a offert aussi une gourde.
Vous en avez deux avec moi. Je vous ai fait une super vanne, vous ne m'avez pas entendu.
Et non, Eva, il faut parler plus fort. Elle était très bien, Eva, c'est super. À suivre, comme Eva et moi, ou comme Gabin et Signoret dans Le Chat, vous ne pouvez plus vous blairer. Quittez le couple et osez le trouble.
Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous.
Mais oui, bien sûr. Tout de même.
Les gens sont pas obligés de savoir.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez... Ouh, calme dans le studio, calme. Et Ève Roger s'indigne de ne pas avoir eu droit à sa question vache. Tant pis pour vous, Ève Roger. Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui prouve que détente et rigolade ne signifie pas forcément mise en veille du cerveau. Alors évidemment, il est toujours compliqué de faire parler ceux qui ne sont plus là. Mais je suis certain que mon idole, Jean-Pierre Mariel, aurait aimé ce mélange de culture et de badinerie, d'infos et de légèreté. Oui, il m'aurait dit, Mathieu, tu es formidable, tu es bosseur, tu es rieur.
Mais puis t'es con, c'est sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil. Presque aussi con que ma belle-mère.
Ouais, non, mais ça c'est Jean-Pierre, il était taquin. Bref, l'équipe est sauvage continue, en présence d'un invité du haut duquel 22 millions de livres vendus nous contemplent. Éric-Emmanuel Schmitt est actuellement à l'affiche de Madame Pilinska et le secret de Chopin au théâtre Rive-Gauche à Paris. Il publie également Eva.
Ah pardon, le journal d'un amant perdu chez Albin Michel.
J'aime bien comme ça pour voir si vous êtes bien dans l'émission et
mais
si
regardez,
vous êtes bien connecté.
Mais vous avez vu.
On continue d'en parler ensemble alors que Ève Roger s'apprête à entrer en piste pour son sujet très attendu sur le trouble. Une alternative peut-être intéressante au couple, mais attention, il vaut mieux prévenir ses proches, hein, sinon vos grands-parents pourraient être surpris.
Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre bonne humeur et de votre culture G avec Eva Rock, Ève Roger, Emmanuel Dutheil et sous la haute autorité, et je peux vous dire qu'aujourd'hui personne ne moufte, d'un des auteurs français les plus lus au monde, Éric-Emmanuel Schmitt. Éric-Emmanuel Schmitt, on vous retrouve actuellement sur la scène du théâtre Rive-Gauche à Paris dans Madame Pilinska et Le Secret de Chopin. Vous publiez également Journal d'un amour perdu où vous évoquez la disparition de votre mère. Une mère, on le disait, que vous adoriez. Ce qui est formidable, c'est qu'elle a vu votre incroyable ascension. Elle devait être complètement tellement fière de vous.
Oui, et en même temps...
inquiète.
Elle ne me passait rien.
Ah, c'est-à-dire qu'elle était votre lectrice? Elle était votre première lectrice,
par exemple? Non, pas la première. Non. Et elle m'a dit, après je ne sais combien de livres, « Ah, cette fois-ci, c'est bien. Oh » voilà. Ou quand parfois je passais, elle me voyait dans une émission de télévision, j'ai trouvé après dans ses petites notes, dans ses carnets, quand elle parlait de moi en public, elle ne disait pas Eric, elle disait EES. Éric-Emmanuel Schmitt. Donc elle avait noté EES, très à l'aise, point, trop. Donc, non, mais elle était juste, hein. Elle était juste.
Sévère mais juste.
Voilà.
Journal d'un amour perdu, c'est chez Albin Michel. On continue d'en parler jusqu'à 18h. Mais avant le retour de la compétition, c'est le moment de filer en région.
Régional géographique.
Aujourd'hui, une histoire incroyable, une guerre d'un genre nouveau, Eva, entre des défenseurs de l'environnement et des vététistes. Vous pensiez que le VTT de montagne était un sport dangereux? Eh bien, pas autant que vous l'imaginiez. Voici vraiment une histoire dingue. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Il y a 15 jours, un vététiste alsacien est passé à un cheveu d'un grave accident. Il a évité de justesse, écoutez bien, un piège, un pieu.
Quelle horreur.
Planté là, exprès, pour blesser des cyclistes.
Alors vous avez le droit, Mathieu, les amis, de ne pas être fan de VTT, de ne pas adorer les vététistes en montagne quand vous les croisez. Mais là, disons-le, oui, la chose est assez barbare. On dirait un accessoire de film d'horreur pas cher, vous savez. Oh. Sauf que c'est pour faire vraiment mal. Un pieu en bois pointu, dressé 50 cm, pile à l'endroit où le vététiste Christophe, avec qui je suis retourné sur place, donc pile à l'endroit où il s'apprêtait à atterrir après une bosse sur ce sentier en pleine forêt.
J'étais à peu près au milieu du rocher, je me suis rendu compte qu'un pic était planté vraiment à ce niveau-là. En fait. Donc en une demi-seconde, j'étais sur le pieu, que j'ai réussi à éviter par la droite, en fait. Mais ma roue arrière l'a quand même fauché, en fait. C'est vraiment flippant, hein. On dirait un harpon, en fait. Le pic à glace, on l'a appelé comme ça entre collègues.
Mais ils sont fous, voilà. Les types.
Bonne ambiance, hein.
Mais Arthur, vous nous dites en plus que ce n'est pas un acte isolé.
Malheureusement non. Alors ce pieu-là, apparemment, c'est une première, mais vous avez depuis quelque temps toute une panoplie. La classique planche cloutée pour crever les pneus, la herse, le fil barbelé au niveau des roues, et même, accrochez-vous, le fil tendu entre deux arbres à hauteur de gorge.
Mais non.
Vous avez un champion français de VTT avec une cicatrice au cou à cause de ça.
Mais qui, Arthur, tend ces pièges atroces?
Honnêtement, on ne sait pas. Pas d'enquête localement, pas de suspect pour l'instant. Et dans le village de Winsenheim, le village du pieu, les gens hésitent. Sans preuve, ils pensent au scénario d'un chasseur fou parce que les VTT feraient peur au gibier, ou d'un randonneur écolo radical, mais en vrai, on n'en sait rien.
Mais alors, sans cautionner évidemment ces actes quasi barbares, si on se fait un peu l'avocat du diable, Arthur, est-ce que les VTT posent des problèmes à certains endroits?
Alors, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à cause d'abord de la tendance sport-nature qui explose et aussi à cause des VTT électriques. Vous avez aujourd'hui plein de demi-flemmards qui débarquent en montagne sans trop se fatiguer. Et il n'y a pas de sentier spécifiquement pour les vélos qui abîment un peu les sentiers, c'est vrai. Écoutez le maire de Winsenheim, Pierre Nicole.
Moi, j'ai vu déjà une moto tirer un VTTiste pour arriver au-dessus vers le château de Landsburg pour pouvoir descendre tranquillement. Donc, ils ne se fatiguaient pas beaucoup pour monter. Ah, il y a des gens qui ne respectent pas du tout la nature. Moi, je suis un marcheur. Quand vous leur dites quelque chose, je n'ose même pas dire les termes qu'ils emploient, mais ils vous envoient quand même en promener.
Du coup, il y a des VTTistes, on va dire, responsables qui essayent de trouver des solutions. Il y a une association qui s'appelle Hollands Bike sur place qui donne un coup de main pour l'entretien des sentiers et qui rêve, mais il va y avoir pas mal de chemins pour y arriver, d'officialiser des tracés aujourd'hui sauvages pour en faire des vraies pistes vertes, bleues, rouges, comme au ski, mais réservées au VTT.
Merci beaucoup Arthur Mbaché pour cette enquête édifiante. Vous êtes notre correspondant d'Europe 1 dans l'Est.
Je ne ferai plus de VTT, ça m'arrange.
Oui, vous n'en avez jamais fait en même temps, ça vous arrange doublement. Éric Emmanuel Schmitt est notre invité jusqu'à 18h. Eva, on rappelle son actualité brûlante.
Oui, d'abord, Journal d'un amour perdu, c'est votre dernier roman, votre dernier récit chez Albin Michel. Et puis, vous êtes au théâtre Rive-Gauche, évidemment, pour la pièce, l'adaptation de votre roman Madame Pilinska et le secret de Chopin.
Merci Eva, c'était pas mal dit.
Europe 1.
À suivre dans l'équipée sauvage, véritable ligue des champions des journalistes d'Europe 1 qui se démènent pour vous offrir la meilleure chronique, une candidate très attendue puisqu'avec ses 7 points, elle est actuellement deuxième du championnat. Il faut dire qu'elle a trouvé la martingale pour engranger des points, ne pas avoir peur de donner dans le racoleur. Ève Roger arrive. Eva, vous la connaissez.
Alors moi, j'imagine un truc très sordide.
Sordide non, mais coquin. On va parler d'une nouvelle tendance sociétale, chère à Jeanne Moreau, le trouble. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Roque, Ève Roger, Emmanuel Duteil. Deux heures d'une joute verbale et parfois physique entre des collègues devenus rivaux, les journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi sont désormais en compétition pour le titre de chroniqueur du jour, pour les départager, vous bien sûr, mais également notre invité d'honneur, Éric Emmanuel Schmitt, qui, fidèle à son don d'ubiquité, nous présente à la fois un livre, Journal d'un amour perdu, et une pièce, Madame Pilinska et le secret de Chopin, actuellement au théâtre Rive-Gauche à Paris. Les deux sont autobiographiques. On rit, on pleure. Ce mélange de profondeur et de drôlerie, c'est vraiment votre marque de fabrique, votre patte.
Mais je ne peux pas faire autrement.
C'est vous, quoi.
C'est-à-dire que l'humour, c'est un allègement. C'est-à-dire, je parle de choses graves, mais j'en passe en gravité. Voilà, je peux aborder absolument tous les sujets et du coup être suivi. Et puis je suis comme un enfant, moi, je passe du rire aux larmes avec une extrême volatilité.
Pour moi, il y a une phrase de votre œuvre qui symbolise cette alliance de drôlerie et de profondeur. C'est la première phrase de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. À 11 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. Ça, c'est une des ouvertures de roman, mais qui, je vous le dis, pas parce que vous êtes mon, si, parce que vous êtes mon invité aujourd'hui, mais j'y ai pensé souvent, c'est une des phrases de roman qui m'a le plus marqué. Je trouvais qu'elle était très forte. C'est un uppercut, quoi.
Ouais.
Et c'est votre drôlerie aussi, elle a déjà.
Une phrase comme ça, après, vous avez qu'à tirer le fil et toute l'histoire vient.
Oui, alors à moi, je ne pense pas que toute l'histoire vienne. Il fallait dire que c'est vous qui l'écrivez quand même. Alors, on en parle depuis tout à l'heure. La pièce de théâtre évoque votre amour pour Chopin, le livre La perte de votre mère. Et les deux se rejoignent finalement parce que c'est vraiment votre mère qui vous a encouragé à continuer le piano, alors qu'à 11 ans, un peu découragé par l'apprentissage, vous vouliez arrêter en fait.
Oui, mais vous savez ce que c'est. En musique, on progresse en marche d'escalier. C'est pas continu. Et tout d'un coup, on passe d'une étape à une autre. Et tout d'un coup, je butais contre la marche, quoi. Et j'ai voulu arrêter, comme beaucoup d'adolescents ou beaucoup d'enfants. Et alors là, pour la première fois de sa vie, ma mère s'est opposée à moi. En me disant, tu as voulu faire du piano, tu feras du piano. Et tu vas faire la différence entre vouloir et pouvoir. Et alors du coup, elle a insisté. Évidemment, 4 mois après, je la remerciais. Et toute ma vie, je l'ai remerciée d'avoir insisté parce qu'elle m'a ouvert le continent du piano et de la musique.
Vous êtes si proche de votre mère et si différent de votre père que vous êtes persuadé qu'il y a un secret autour de votre naissance.
Je me suis raconté ça toute mon enfance.
Bah, écoutez, mais déjà, c'est une vue de l'esprit ou...
Bah, c'est pas une vue de l'esprit. Si vous voyez la photo de mon père, jeune, il ressemblait à Paul Newman, quoi. Donc les yeux bleus, blonds, etc. J'ai jamais.
Mais vous en avez déjà parlé à votre mère?
J'attendais une grande révélation. J'attendais qu'un jour, au milieu des confidences qu'on se faisait, elle me dise « Bon, maintenant, il faut que je te dise quelque chose. » Et elle est partie sans me dire ça.
Oui, mais vous avez enquêté après.
Et dans le livre, je raconte l'enquête qui me conduit finalement à trouver mon père.
On ne dévoile pas la fin. Parce que c'est à la fin de votre livre, en l'occurrence, qu'on apprend.
Parce qu'en fait, un des cadeaux de ma mère... En partant, c'était me faire faire un chemin qui me permettrait de trouver mon père.
Elle vous a laissé les clés. Alors, il y a le Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain, dramaturge, acteur, et puis il y a aussi le quatrième quadruplé, Éric-Emmanuel Schmitt, le réalisateur, cinéaste, Odette Tout le Monde, Oscar et la Dame Rose. Est-ce que ça vous laisse le temps, vous, de regarder la télé, les écrans ?
Pas tellement, non.
Vous n'êtes pas comme ces Français, alors, qui passent, vous savez combien de minutes, à errer devant la plateforme d'accueil, devant la page d'accueil de Netflix, 17 minutes par jour, de perdu, à choisir, ne serait-ce que ce qu'on va regarder à la télé ce soir, parce qu'il y a tellement de choix, notamment sur les plateformes de VOD. Heureusement, pour démêler tout ça, il y a désormais Eva Roche. 17 minutes
faut
de gagner.
Faut bien que ça serve à quelque chose, hein, vous
Eva,
savez.
Oui. Et c'est maintenant qu'on va s'en rendre compte.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, sur les écrans, sur la télé?
Alors importe. D'abord, une première question. Pour vous tous, quel est le point commun entre Blade Runner, Rocky III, Conan le Barbare et E.T., d'après vous? À part que ce sont des films américains, j'aimerais une réponse
c'est
un peu plus...
Ford.
Non.
C'était pas Harrison Ford qui jouait E.T.
Non.
Il était dedans, oui. Ça, on l'a su très tard.
Je vais tout vous raconter. C'est une année, c'est 1982. Ça a été une année révolutionnaire pour
une
le
grande
cinéma.
Année, je me permets de signaler.
C'est vrai, c'est une grande année, votre année de naissance.
Par exemple.
Ah bon, par exemple.
Très bonne année pour le Bordeaux.
Mais enfin, c'est surtout l'année révolutionnaire pour le cinéma, comme le raconte un documentaire qui est à voir sur Arte, soit ce soir à 23h05, soit sur le site d'Arte.
The Thing, Blade Runner, Tron ont inspiré tous les genres nés de l'année 1982. Le post-apocalyptique, les splendides mondes futuristes numériques. Conan a inspiré Game of Thrones. Sans ces films des années 80, on n'aurait pas Lord of the Rings, les Marvel, mais X-Men. Ils ont prouvé que la science-fiction, ce n'était pas des navets à petit budget. Que la fantasy devait être prise au sérieux.
Des blockbusters donc qui ont été quasi effacés par un film mythique cet été-là, le film E.T. évidemment, et le documentaire raconte notamment la E.T. mania qui s'est emparée des États-Unis, les produits dérivés qui se multiplient. Pendant 13 semaines, le film est resté en tête du box-office. On y vient en famille et E.T. devient un triomphe pour Spielberg dans une Amérique qui se veut victorieuse et ouverte aux autres parce que oui, à ce moment-là, l'extraterrestre n'est plus un méchant, mais c'est un ami. Et
ça
oui,
a bien changé, hein.
Et oui, surtout les effets spéciaux donc de tous ces films et notamment E.T. et les autres avancées technologiques deviennent en fait les ingrédients indispensables au film américain. 1982, ça s'impose vraiment comme l'année charnière dans le cinéma, alors américain et dans le cinéma mondial. Éric-Emmanuel Schmitt, cette année-là, vous aviez 22 ans. Est-ce que vous traîniez dans les salles de cinéma à l'époque pour découvrir ces
oui,
films américains?
J'ai vu tout ça.
Vous avez tout vu?
Vous avez vu E.T. en salle?
De E.T. à Connard le Barban. J'ai tout vu.
17 minutes de gagner. Merci Eva Roque.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, la folle compétition des journalistes d'Europe 1 se poursuit et notre prochaine concurrente est à cette émission ce que le PSG est à la Ligue 1. Un leader naturel, Ève Roger, chef du service société connu pour sa capacité à déjouer les clichés.
Les pompiers par exemple sont beaux et musclés.
Nous parlera aujourd'hui d'une tendance sociétale qui gagne du terrain, figurez-vous, le trouble, autrement dit la vie à trois. Oserez-vous franchir le pas? À tout de suite.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue deux heures où les plus bas instincts des journalistes d'Europe 1 s'expriment au grand jour. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil critique mais juste de notre invité arbitre, Éric-Emmanuel Schmitt, actuellement sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris dans Madame Pilinska et Le Secret de Chopin. Éric, vous avez déjà entendu trois journalistes, vous avez peut-être déjà une préférence. Eh bien, je vous le dis, oubliez tout, car voici Ève Roger. Chef du service société dont l'excentricité n'est pas sans rappeler celle de Madame Pilinska, votre prof de piano, qui vous conseillait de faire l'amour lentement, sauf qu'elle vous conseillait plutôt de le faire vite. Ses goûts et obsessions personnelles transparaissant toujours dans ses choix de sujets, elle nous parle ce matin du trouble. Le mot est nouveau, la pratique un peu moins.
Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie.
Une partie de quoi?
Garçon, fille, le genre mélange.
Ève Roger, c'est un classique revisité dont vous nous parlez aujourd'hui en fait.
En fait, c'est un mot déjà affreux, le trouble, c'est
oui,
un
c'est
nouveau
vrai.
Mot.
Oui.
Mais je crois que vous vous trompez. Le trouble n'est pas un plan à trois et le trouble n'est pas un 2+1. C'est pas Jules et Jim, ils couchaient pas ensemble. Le trouble,
ah, c'est vrai que Jules et Jim ne couchaient pas ensemble.
Le trouble, c'est trois personnes qui s'aiment à égalité. Donc, est-ce que ça existe vraiment? J'ai fait une enquête.
Possible, oui.
Il y a un trouple marié officiellement en Colombie. Trois hommes.
Vous voulez dire légalement?
Légalement.
D'accord.
Un trouple marié officiellement aux États-Unis, trois femmes, même s'il y a une petite entourloupe juridique. Donc moi, je n'y croyais pas du tout. Et bien pourtant, j'en ai croisé un. Vous allez l'entendre. Lui s'appelle Nico. Il a 32 ans. Il vit depuis 5 ans avec Fred. Et un jour, ils sont tombés sur David. Écoutez.
C'est juste que j'ai la chance de pouvoir regarder à droite, je suis amoureux de quelqu'un, de regarder à gauche, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. On baigne dedans. On est encore moins seul que d'habitude, comme on pourrait l'être. Quand on veut faire l'amour, on veut le faire à trois. Et c'est ça qu'on privilégie tout le temps.
Jamais à deux?
Non, on le fait à deux, parce qu'au cas où, il y en a un qui travaille, il y en a qui sont en week-end, on va pas jouer les nonnes pendant deux jours à se regarder dans le blanc des yeux.
Est-ce que les lits sont assez grands pour vous?
On a la chance d'avoir un 180. Bon, après, on n'hésite pas à se dire qu'on va peut-être prendre un 2 mètres, histoire d'être vraiment très à l'aise.
Vous voyez, ça existe. Et il y a des problèmes matériels quand on est un couple. Donc, il y a une question qui
se
pose.
C'est compliqué déjà que c'est compliqué à deux. Imaginez à trois.
Et ben, c'est puissance 3.
L'équation est complexe.
L'émotion, le sentiment, mais aussi les difficultés. Sont multipliés par trois.
Vous avez parlé que de trois femmes aux États-Unis. Mmh. Là, c'est trois hommes. C'est que dans les relations homosexuelles?
Alors, il y en a beaucoup, parce que les hétérosexuels, aujourd'hui, se cachent s'ils sont en trouble, parce que la société n'est pas du tout prête à accepter ça. Mmh. Les homosexuels, ils sont déjà sortis d'un carcan. Ils peuvent bien en sortir d'un second carcan. Mais j'ai trouvé aussi, malgré tout, un trouble hétérosexuel. Là, il s'appelle. Alors, écoutez bien, parce que ça va vous amuser. Il s'appelle Loïc.
C'est assez hilarant.
Il a une femme qui s'appelle Angélique, avec laquelle il est marié depuis 10 ans. Et il a une maîtresse qui s'appelle Eva.
Voilà.
Et un jour, Loïc a ramené Eva à la maison, dans le lit conjugal. Mais ça ne s'est pas très bien passé.
Ça a bien marché un temps. La puissance d'être trois personnes ensemble qui s'aiment, ça peut être très fort. Mais très vite, il y a eu un déséquilibre qui s'est créé, de la jalousie. Peut-être que j'ai délaissé Angélique, qui a préféré partir. Voilà, je suis resté avec Eva.
On aime toujours un plus que l'autre, peut-être. C'est difficile d'aimer au même niveau.
Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il fallait vraiment une communication intense tout le temps pour justement éviter les déséquilibres. Et quand il y a un petit déséquilibre qui se crée, alors là, c'est tout le trouble qui peut s'effondrer. Donc c'est un mécanisme de précision. Il faut faire très attention. Et moi, j'ai appris un mot en faisant cette enquête, un mot qui s'appelle la compersion. Pour pouvoir réussir son trouble, il faut avoir de la compersion, c'est l'inverse de la jalousie, c'est être heureux du bonheur de l'autre. Et si vous n'avez pas de compersion en vous, vous ne pourrez pas fonder un trouble.
Éric Emmanuel Schmitt, vous m'avez l'air très ouvert à cette idée du trouble.
Mais oui.
Pour vous, ça semble... Mais alors, vous êtes en trouble, avouez-le, sur mon repas, ça vous semble couler de source.
Il s'agit d'amour, donc je vois pas déjà...
Donc en amour, tout est possible.
Donc je vois pas déjà comment moi je mettrais un interdit, puis au nom de quoi? Et en plus, forcément de l'amour intelligent, parce que c'est complexe. Puis moi, je crois surtout que l'amour, on attend qu'il existe, et c'est à nous de le faire exister. Je veux dire, on attend que ça nous tombe dessus, puis que tout soit simplifié. Non, ça nous tombe jamais dessus. C'est nous qui le faisons exister, et qui devons nous engager intelligemment avec l'autre, ou avec les autres. Pour que ça existe.
Vous êtes plein de compersion.
Voilà.
Compersion.
Et Roger, je crois que vous avez marqué des points. Agatha Christie, le GPS fou, le Ricard ou le trouble, quelle chronique aura préféré notre invité? Je vous vois plonger dans des abîmes de réflexion. Éric Emmanuel Schmitt, actuellement sur scène du théâtre Rive Gauche et qui publie Journal d'un amour perdu chez Albin Michel, passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, la grande compétition des journalistes d'Europe 1, et l'excitation monte. De manière inversement proportionnelle à notre budget son, visiblement. Nous découvrons bientôt qui sera élu chroniqueur du jour. Et puis, on vous prendra une fois de plus par la main. Car je sens que vous êtes encore en train de rentrer chez vous sans la moindre idée de ce que vous ferez à manger ce soir. Rassurez-vous, pour vous, on a inventé Delice in Extremis, la recette de dernière minute qui vous sauve la mise. A tout de suite.
L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'Équipée Sauvage continue avec notre invité d'honneur, Éric Emmanuel Schmitt, que vous pouvez applaudir dans Madame Pilinska et le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à Paris, et dont vous pouvez découvrir également le dernier livre, Journal d'un amour perdu.
C'est chez Albin Michel.
Et je sais ce que vous vous dites à ce stade, Éric Emmanuel. La littérature et le théâtre, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Excellente question, Éric Emmanuel. Pour y répondre, je vous présente un personnage haut en couleur qui vous inspirera un nouveau chef-d'œuvre après Madame Pilinska et le secret de Chopin, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Pouls et la blanquette de veau, la périgourdine. Oui, bien, bien, monsieur Olivier. Chaque jour, vers 6h moins le quart, vous nous livrez une recette de dernière minute pour bluffer nos proches. Voici...
Délice in extremis.
Aujourd'hui, Olivier, semaine de rentrée scolaire, on continue de faire plaisir à nos chères têtes blondes, le riz au lait.
Ben oui, on a passé toute la semaine à revisiter les classiques régressifs. Alors, s'il en est bien, qui est vraiment un grand classique régressif, c'est le riz au lait. Vous aimez ça,
J'adore.
Qu'est-ce que ça vous évoque?
Il y a eu un moment de tension érotique entre Olivier Pouls, Éric Emmanuel Schmitt sur le riolet, un silence radiophonique lourd de sens.
Je pense qu'il y a même eu une forme de transmission de pensée parce que ce matin, en me levant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai une petite heure à tuer. je vais faire un riolet spécialement pour vous dans les règles de l'art. Alors, comme hier, on a détaillé les trois règles absolues pour réussir la purée, on va faire les trois règles absolues pour réussir le riolet. Ça commence avec la variété de riz. On prend du riz rond, du riz à risotto de type Carnaroli, par exemple. Deuxième règle, c'est le lait. Là aussi, on ne prend pas n'importe quel lait, on prend du lait entier. Pourquoi ? Parce que c'est meilleur, c'est plus gras. Et, oui, et le gras, c'est
toujours... Il faut savoir une chose, hein, chers auditeurs, c'est que vous prenez toujours ce qu'il y a de plus gras. Pour suivre les conseils d'Olivier Poul, c'est toujours
si
comme ça.
Si vous voulez que votre riolet ait du goût, vous prenez évidemment du lait entier. Ensuite, il y a la cuisson. Alors, 5 volumes de lait pour un volume de riz. Ça, c'est très important. Et un demi-volume de sucre. On ne peut pas faire plus simple.
Oui, d'accord, hein. D'accord. Jusque-là, c'est facile.
Tout ça dans une casserole. On porte le lait à ébullition. On met le riz dedans, bien évidemment. On laisse chauffer 2-3 minutes. Et ensuite, on le met dans un plat et on le finit au four. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça va donner une petite croûte qu'on va casser régulièrement. Et cuisson dans le four à 120-130 degrés pendant 30-40 minutes. On le vérifie de temps en temps. Puis dès qu'il est très légèrement al dente, mais cuit, hop, on le sort. On laisse refroidir. Alors, on peut l'aromatiser. Là, je vous l'ai fait à la vanille. Donc, j'ai mis 2 bâtons de vanille ouverts avec les petits grains dedans tranquillement. On peut le faire au chocolat. Vous faites fondre, par exemple, quelques carrés de chocolat dans votre lait juste avant de mettre le riz. Et hop, le tour est joué. On peut le faire au caramel. Et puis après, on peut surtout l'agrémenter de confitures, de fruits, de tout ce qu'on veut en ce moment.
Tout en même temps, le gloubi-boulga, ça s'appelle ça.
Non, mais chaque chose séparée. Mais voilà, plein d'idées pour faire du riolet. Franchement, c'est un dessert hyper facile. Ça met 40 minutes. Tout le monde est content. Goûtez-le, Eric Emmanuel. Et j'attends votre verdict.
Le verdict d'un spécialiste du riolet, Eric Emmanuel.
Il est très, très bon.
Il est très, très bon.
Et moi, je l'aime à la vanille. Hein, donc merci.
Alors, vous savez que. Enfin, moi, je suis 100% belge, mais je crois que vous avez une petite partie belge en vous. Est-ce que vous mangez de la tarte au riz?
Oui, j'ai goûté ça, oui, tout à fait.
C'est une spécialité belge. En fait, c'est une tarte avec dedans du riolet. Ça un petit peu, ça tient encore.
Ça permet d'affronter l'hiver sereinement.
C'est vraiment délicieux.
Olivier Poul, c'est le secret du riolet, sera peut-être son prochain best-seller. Pour l'instant, et c'est déjà pas mal, vous le retrouvez sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris dans Madame Pilinska et Le secret de Chopin. Il publie également Journal d'un amour perdu ou Comment survivre au départ d'une mère. Éric Emmanuel Schmitt est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Le moment fatidique approche. De la palpitante et cruelle compétition qui a opposé aujourd'hui les meilleurs journalistes d'Europe 1, un seul ressortira vainqueur qui se coiffera dans quelques instants de la prestigieuse couronne de meilleur chroniqueur du jour, qui au contraire terminera son vendredi seul, abandonné de tous et se dira
« J'aimerais bien que vendredi on aille se bourrer la gueule, après on ira à l'hippo, il donne des chips. »
La réponse arrive. Comme l'aurait dit François Feldman au public du Téléthon en 2003, surtout ne bougez pas.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous l'attendiez avec des nœuds dans le ventre. Voici la grande finale de l'équipe est sauvage. Ce moment où le temps s'arrête et où l'ubérisation du monde est parachevée. En effet, à l'issue d'une lutte sans merci, un seul journaliste d'Europe 1 va accéder au titre suprême de chroniqueur du jour. Quel sujet vous aura le plus passionné aujourd'hui ? Agatha Christie, le trouble, le GPS fou ou le Ricard ? Il est temps, Eva Rock, de découvrir le vote du public.
Les auditeurs sur Twitter ont voté pour le Ricard. C'est Emmanuel Duteil.
Le Ricard, je connais bien les auditeurs. Je vous embrasse fort.
2 points pour Emmanuel Duteil qui ouvre son compteur.
Il était temps. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Nicolas Carr.
Oui.
C'est le moment fatidique. C'est le moment où notre invité d'honneur, Éric Emmanuel Schmitt, dont la voix compte triple, je le précise, doit trancher dans le vif. Éric Emmanuel, qui choisissez-vous comme
chroniqueur. J'étais intéressé par tout. J'ai adoré l'analyse finement politique qu'il y avait chez Jean-Philippe Ballas quand il dit on ne peut pas tous se tromper. J'ai vu une allusion au Brexit. Bravo.
Très joli. Très joli.
J'ai été évidemment très intéressé par l'évocation d'un de mes auteurs préférés, par Nicolas Carreau. J'ai été très intéressé par les déboires de la boisson d'Emmanuel Duteil. Mais j'avoue que je vais donner mon point à Ève Roger parce que c'était anti-tabou.
Ah, ça pour être anti-tabou, elle est complètement anti-tabou. Ève Roger remporte la compétition du jour avec 3 points.
Merci.
C'était la 10e édition de l'équipe est sauvage en présence d'Éric Emmanuel Schmitt que vous retrouvez sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris dans Madame Pilinska et Le secret de Chopin et dont le dernier livre Journal d'un amour perdu est disponible chez Albin Michel. Éric Emmanuel, si vous deviez retenir une chose de cette émission,
j'ai l'impression que c'est la cohérence.
Non, génial.
Le type est génial et lucide. Et j'ai pris un son pour pas qu'il ait à lire en direct. Ça vous a plu, Eric Emmanuel? En vrai, cette émission, vous avez passé deux heures agréables en notre compagnie.
Ouais, c'est délicieux.
Non, il est coincé. Merci également à ma Dream Team, la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Eve Roger, Emmanuel Duteil, Nicolas Carreau, Jean-Philippe Ballas. L'équipe est sauvage revient lundi 16h. Tout de suite, place à l'info sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, très bon week-end à vous. On vous retrouve lundi, hein. Soyez au rendez-vous dès 16h évidemment avec vos invités.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.